tous et bienvenue dans cette chronique sur les découvertes et les avancées scientifiques édition Mystère. Je m'appelle Calliope, je suis en seconde et avec moi vous apprendrez des infos intéressantes à ressortir en repas de famille. Tout de suite, le sommaire. Pour commencer, nous allons parler des jeunes et de leur apparente passion pour la malbouffe. Ensuite, nous découvrirons pourquoi on aime autant écouter une musique en boucle. Et pour finir, nous apprendrons pourquoi on est fasciné par les affaires criminelles, même des années après. Les jeunes mangent-ils vraiment trop de malbouffe ? Ah, les jeunes et la malbouffe, une grande histoire d'amour, un peu comme Roméo et Juliette, sauf qu'ici, Juliette s'appelle Cheeseburger et Roméo trempe ses frites dans un milkshake. Mais est-ce vrai qu'ils en mangent plus que leurs parents ? Spoiler alerte, c'est plus compliqué que ça. Depuis que l'industrie agroalimentaire nous vend du « prêt à manger » à grand renfort de slogans alléchants et de mascottes plus flippantes qu'attachantes, coucou Ronald McDonald, on a tendance à croire que les ados sont en train de muter en nuggets géants. Sauf que, si on compare avec les générations précédentes, il s'avère que nos parents aussi avaient un petit faible pour les plats tout prêts. Simplement, à leur époque, ça s'appelait la révolution industrielle de l'alimentaire et pas la flemme d'éplucher une carotte. Alors oui, les jeunes sont exposés aux aliments ultra transformés, mais en vrai, ils n'en consomment pas forcément plus que leurs parents au même âge. En revanche, la grande différence, c'est que leurs parents, eux, ont découvert la cuisine sur le tard, après avoir passé leur jeunesse à engloutir des raviolis, du couscous brûlé, des cordons bleus douteux. Maintenant qu'ils sont à la retraite, ils ont le temps de mitonner des petits plats maison et de critiquer les habitudes alimentaires de leurs enfants. Ironique, non ? Mais pourquoi diable les jeunes se ruent-ils sur ces produits ? Eh bien pour la même raison qui fait qu'on regarde des vidéos de chats à 3h du matin. Parce que c'est accessible, rapide et conçu pour qu'on en redemande. Les industriels sont malins. Ils ont troqué les pubs à la télé contre des influenceurs sur TikTok qui croquent dans des burgers avec une passion digne d'un premier amour. Et en prime, ils jouent sur la nostalgie. Un enfant qui grandit avec des céréales colorées voudra les retrouver une fois adulte, en mode Madeleine de Proust. Sauf qu'ici, la Madeleine est bourrée de colorants e quelque chose. Ajoutez à cela le facteur économique. Entre payer un loyer, un abonnement Netflix et des pâtes instantanées, le choix est vite fait. La cuisine maison, c'est sympa sur le papier, mais encore faut-il avoir le budget pour acheter des légumes frais et le temps de les préparer. Les lasagnes maison, c'est bien joli, mais quand ton four met 30 minutes à préchauffer et que ton frigo est vide, un plat surgelé devient vite un allié de poids. Bref, les jeunes ne mangent pas nécessairement plus d'aliments ultra transformés qu'avant, mais ils y sont plus exposés et ils en consomment parce que c'est souvent la solution la plus simple. Alors, la prochaine fois que vous voyez un ado dévorer un kebab avec un air coupable, souvenez-vous, il perpétue simplement une tradition familiale. Et puis qui sait, peut-être que dans quelques décennies, il viendra vous expliquer que « Non, mais nous, à notre époque, on mangeait mieux en trempant son biscuit bio sans gluten dans son petit détox. » La boucle est bouclée. Aujourd'hui, on s'attaque à un mystère qui nous concerne tous. Pourquoi, mais pourquoi écoute-t-on une musique en boucle jusqu'à ce que nos proches menacent de nous débrancher les écouteurs à coups de baguette de sourdine ? Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas juste une manie bizarre. C'est prouvé par la science. Voici les trois raisons pour lesquelles notre cerveau adore mettre Céline Dion ou Bella Ciao en replay jusqu'à l'épuisement neuronal. Raison numéro 1. Notre cerveau aime les schémas prévisibles. Eh oui, notre cerveau, c'est un peu comme un vieux chat. Il aime ses petites habitudes. D'après une étude très sérieuse menée par des chercheurs du Michigan, qui ont sûrement écouté Bohemian Rhapsody 200 fois pour valider leur hypothèse, 60% des gens relancent leur chanson préférée immédiatement après qu'elle soit terminée. Pourquoi ? Parce que la musique répétitive, c'est rassurant. Un peu comme regarder son 12e épisode de la même série en mode réconfort. Sauf que là, c'est une mélodie entêtante et des paroles qu'on connaît par cœur. Raison numéro 2. La dopamine, notre drogue musicale préférée. Écouter un bon son en boucle, c'est un shoot de bonheur garanti. Quand on appuie sur « repeat », notre cerveau libère de la dopamine, ce petit neurotransmetteur responsable du plaisir. Autrement dit, c'est un câlin chimique qui passe par les oreilles. Résultat, on devient littéralement accro à notre chanson fétiche. Désolé pour votre entourage, vos enfants, qui subissent votre période Teddy Swims ou votre phobie de changer de playlist. Raison numéro 3, la musique, c'est notre psy pas cher. On ne va pas se mentir, parfois quand on écoute une chanson en boucle pour une bonne raison, c'est la seule chose qui comprend nos émotions. En pleine rupture amoureuse, hop, une session Adèle en boucle. En mode nostalgie de l'été dernier, allez, Despacito, juste une dernière fois. Et puis encore une, et encore une, et encore une. Bref, écouter un morceau en boucle, ce n'est pas juste une lubie, c'est un moyen de digérer nos émotions. Moralité, la prochaine fois qu'on vous reproche d'écouter la même chanson 500 fois, répondez que... vous faites de la, je cite, Neurothérapie sonore, ma fille. Ça claque, non? Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle chronique et en attendant, moi je vais relancer mon morceau préféré pour la 248e fois aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui nous passionne tous au point de binge-watcher des documents Netflix jusqu'à 3h du matin, les affaires criminelles. Pourquoi est-ce qu'on aime tant suivre des histoires sordides qui nous concernent absolument pas? Eh bien, attachez vos ceintures, on va décortiquer cette fascination un brin glauque en trois raisons. Raison numéro 1. C'est effrayant, mais ça nous rassure quand même. Oui, c'est paradoxal. D'un côté, on regarde ces affaires en disant « Mon Dieu, c'est horrible !» Et de l'autre, on est bien content d'être bien au chaud chez nous, loin de tout ça. Un peu comme quand on ralentit sur l'autoroute pour se jeter un accident. Sauf que là, c'est sur une chaîne info en continu avec des reconstitutions en images de synthèse douteuses. Il faut bien avouer qu'entendre « L'assassin est toujours en fuite », juste avant d'aller se coucher, c'est toujours un excellent moyen d'activer notre imagination et de vérifier trois fois si la porte est bien fermée. Raison numéro 2. Le crime, c'est comme une enquête interactive, mais sans effort. Soyons honnêtes, qui n'a jamais essayé de deviner qui a tué avant la fin de faire entrer l'accusé? Ces histoires criminelles, c'est un cluedo géant version réalité. On adore spéculer, échafauder des théories, suspecter tout le monde et parfois même accuser le chat de la victime, parce qu'il avait un air louche sur une photo. D'ailleurs, avec toutes ces séries et ces podcasts criminels, on est persuadé qu'on pourrait devenir expert en profiling. On s'imagine déjà dans un commissariat en train de pointer un suspect du doigt en criant « J'ai trouvé !» Sauf qu'en réalité, on a juste regardé trop de séries policières. Raison numéro 3, on adore les interdits, mais de loin. Soyons clairs, on ne deviendra pas des serial killers pour autant. Enfin, j'espère. Mais on a toujours une petite fascination pour la transgression, pour le « et si ?». On explore nos pires craintes sans jamais franchir la ligne. C'est un peu comme manger un piment super fort. On sait que ça va brûler, mais on y retourne quand même. Et puis, avouons-le, il y a un petit plaisir coupable à juger les criminels en mode « Mais quel amateur ! Laissez des empreintes partout, un vrai débutant !» alors qu'on est les mêmes qui oublions nos codes de carte bleues trois fois par semaine. Conclusion. Les affaires criminelles, c'est un peu comme une série dont la fin n'est jamais totalement écrite. Et ça, notre cerveau adore. C'est du frisson sans danger, du mystère sans conséquence et un sujet de conversation intarissable pour les dîners entre amis ou en famille. On se met dans la peau d'un détective, on s'amuse à décrypter les indices, on se sent un peu comme Sherlock Holmes, mais sans quitter son canapé. Et surtout, ça nous rappelle que la réalité dépasse parfois la fiction. Et puis, il faut le dire, certaines affaires sont tellement improbables qu'elles nous fascinent comme un bon scénario de polar, sauf que là, c'est bien réel. On se retrouve à débattre pendant des heures sur des affaires vieilles de 20 ans, persuadés qu'on a trouvé l'élément manquant, alors que les enquêteurs, eux, rament depuis des décennies. Alors la prochaine fois que vous enchaînez 3 épisodes de True Crime en une soirée, dites à vos proches que ce n'est pas du voyeurisme, mais une réflexion sociologique de haut niveau. Et en attendant, ne laissez jamais traîner de traces ADN. On ne sait jamais. Pour la semaine prochaine, je vous propose une édition sur le diktat de la beauté des hommes, le sommeil des femmes et l'heure d'été. Merci de m'avoir écouté sur Delta FM 90.2. Et si vous voulez retrouver cette émission, c'est en podcast sur le site lp2i.radio-delta.fr. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes.